de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus était conscient de cela et il a parlé de sa mort plus d'une fois. Lorsque Pierre voulut l'empêcher d'aller à sa mort, Jésus le reprit sévèrement. On voit ça dans Matthieu 16, versets 21 à 22. D'un point de vue historique, il est aussi important de réaliser que la crucifixion était la peine de mort que les Romains infligeaient aux criminels. La peine de mort juive, comme nous le voyons dans la Bible, était la lapidation, même à l'époque romaine. Il est donc clair que, selon les faits historiques et selon les récits des évangiles, ce sont en fait des soldats romains qui ont crucifié Jésus. Néanmoins, si nous croyons que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, nous devons réaliser que cela veut dire que toute l'humanité est responsable pour sa mort. Car Jésus a porté le péché du monde, c'est ce que disait Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, verset 29. De plus, Jésus affirme avec force, « Personne ne me l'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » C'est toute l'humanité qui est responsable pour le sacrifice de Jésus. Il est mort à cause de vous, et il est mort à cause de moi. Jésus a souffert pour le genre humain. Si Jésus n'avait pas donné sa vie, nous serions toujours sans pardon. Donc, cette notion de déicide est complètement erronée, et contraire aux Écritures. Cependant, elle subsiste jusqu'à nos jours dans beaucoup de nos églises. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, le schisme entre les Juifs devenus chrétiens et les non-juifs va s'agrandir de plus en plus pour arriver au point où les non-juifs vont taxer le juif d'être entêté et borné, et qu'il y a donc très peu de chances qu'il se repente pour le déicide qu'il a commis. De plus en plus d'efforts sont alors fournis pour faire oublier les origines juives de Jésus et des apôtres, et pour faire oublier que le christianisme avait grandi à l'ombre de la synagogue. Cet effort s'est perpétré jusqu'à nos jours. Quel est le chrétien aujourd'hui qui reconnaît qu'il plie le genou devant un juif, le Messie d'Israël? Les pères de l'Église tels que Saint Jean de Chrysostome, dont le nom veut dire « bouche d'or », prononcera 8 discours contre les juifs. Saint Grégoire de Nice, Saint Augustin, Saint Ambroise et d'autres en sont arrivés à écrire des sermons enflammés contre les juifs, les nommant de toutes sortes de noms, et démontrant clairement leur haine envers eux. On en arrive aux croisades. Il est impossible de parler d'antisémitisme sans parler des croisades. Il y eut en tout 8 croisades, s'étalant de 1096 à 1270. La première fut organisée par le pape Urbain II, né à Châtillon-sur-Marne. Cette croisade fut décidée à Clermont en 1095. Le pape, un Français, appelle des volontaires à partir pour Jérusalem, promettant une rémission des péchés comme récompense. Au cri de « Dieu le veut », des hordes de paysans, de chevaliers, de moines et de seigneurs s'embarquent pour l'expédition dont le but ultime était de libérer les lieux de la Palestine et de châtier, d'après les chroniqueurs, tous les infidèles, quels qu'ils soient, sarrasins, juifs, etc. Guibert de Nogent, 1053 à 1124, rapporte « Nous souhaitons, disait-il, combattre les ennemis de Dieu en Orient. Mais nous avons sous les yeux les Juifs, une race plus hostile à Dieu que toutes les autres. Nous faisons tout ce travail à rebours. » Le massacre des Juifs de Rouen est connu et Richard de Poitiers mentionne que les croisés, avant de se rendre en ces lieux, exterminèrent par de nombreux massacres les Juifs dans presque toute la Gaule, à l'exception de ceux qui se laissèrent convertir. Dans une lettre pressante, les communautés juives de France avertirent leurs coreligionnaires d'Allemagne du danger imminent, mais ceux-ci restaient confiants. Arrivé à Jérusalem le 15 juillet 1099, le fameux Godefroy de Bouillon va faire entrer des juifs, hommes, femmes et enfants, dans une synagogue et y mettra le feu. La prise de la ville sainte provoque la mort de près de 100 000 personnes. La deuxième croisade fut prêchée par Bernard de Clairvaux, et finalement la 7e et la 8e croisade furent conduites par Louis IX, roi de France. Il faut savoir que les croisés massacraient tous les infidèles sur leur chemin. Cela incluait les juifs et les musulmans. De nouveau, le signe de la croix devint un symbole de torture et non de pardon et de miséricorde. Cependant, presque 1000 ans plus tard, un geste a été fait par Jeunesse en Mission, afin de se repentir pour la croisade des enfants de 1212. En 1998, une marche commémorative et de réconciliation fut organisée par Jeunesse en Mission et rassemblait de 500 à 1000 enfants français et adultes. Les enfants ont partagé un message de repentance et de réconciliation tout le long du chemin qui les a conduits de Cologne à Jérusalem. Ils arrivèrent à cette destination au cours de l'été 1999, exactement 900 ans après que les croisés mirent cette même ville à feu et à sang. Le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, une des façons de punir les Juifs fut de les obliger à exercer des métiers qui, au départ, étaient vus comme étant sales et dégradants. Parmi ceux-ci se comptaient les prêteurs d'or et d'argent. Mais les responsables des églises n'avaient pas envisagé la possibilité que les Juifs pourraient réussir dans leurs entreprises. Et ils réussirent tellement bien que les chrétiens devinrent jaloux de la richesse que les Juifs avaient accumulée à leurs dépens. Les pastoureaux, jeunes bergers et paysans, tentent en 1320 de relancer une nouvelle croisade en Terre Sainte. Ils parcourent la France en pillant et massacrant et provoquent la disparition de 120 communautés juives, surtout dans le sud-ouest, à Auch, Guimont, Rabestens, Gaillac et Albi. Les Juifs furent exterminés car ils étaient coupables avant tout d'être juifs. Là où surgissait la peste ou la famine, les Juifs étaient sacrifiés afin d'apaiser la divinité locale. Les Juifs furent accusés d'avoir empoisonné les puits d'eau, et c'est ainsi qu'ils furent massacrés par milliers à York et à Londres. En Espagne, en Italie, en Pologne, en France et ainsi qu'en Autriche. Ils furent brûlés au bûcher à Strasbourg, à Mayence et à Troyes. Au XIVe et XVe siècle, la bourgeoisie chrétienne voyait d'un regard paisible le massacre des Juifs, car elle se trouvait ainsi débarrassée d'un rival qui réussissait trop bien dans ses entreprises. En 1215, au cours du quatrième concile de Latran, l'Église imposa aux Juifs le port d'un badge distinctif, la rouelle, pièce ronde de tissu, ainsi qu'un chapeau pointu. En 1555, le pape décréta que les Juifs devaient être enfermés dans des ghettos, quartiers exigus où ils seraient obligés de vivre pendant des siècles, dans des conditions sanitaires inhumaines. On leur interdit la lecture de certains de leurs livres, tels la Mishnah, qui est la loi orale. Leur livre de prière fut censuré, et il leur fut interdit de construire de nouvelles synagogues. À ces lois étaient ajoutées des coutumes vexantes, telles que celles de Toulouse, où le représentant des Juifs était battu à coups de poing dans les oreilles. La foule insultait les Juifs pendant leurs fêtes et au cours du Shabbat. On profanait leur cimetière, habitude qui ne s'est pas perdue. Souvenez-vous de Carpentras en mai 1990. Toujours au Moyen-Âge, des discussions entre Juifs et chrétiens étaient organisées. Cette forme de dispute, en effet, remonte à l'Antiquité. Mais ces discussions étaient rarement ouvertes au public. L'Église en redoutait les conséquences. Les Juifs, eux, étaient prudents dans leurs insertions. Et ils suivaient le conseil de Moïse Cohen de Tordesillas adressé à ses frères. Ne laissez jamais votre zèle vous emporter au point où vous prononceriez des paroles vexantes, car les chrétiens ont le pouvoir de faire taire la vérité avec des coups de poing. Ces conseils étaient suivis. Mais en dépit des précautions qui étaient prises, à la fin de la discussion, le juif avait toujours tort et on le battait à mort. Meurtre rituel. En 1171, les juifs de Blois, en France, furent faussement accusés d'avoir crucifié un enfant chrétien pendant la Pâque juive et d'avoir jeté le corps dans la Loire. Ce fut la première fois qu'une accusation de meurtre rituel était faite en Europe. L'accusation que les Juifs ont besoin de sang pour en faire des matzot, pain sans levain spécifiquement utilisé pendant la fête biblique des Azim, pain sans levain, existe depuis lors et a continué à faire des ravages jusqu'à nos jours dans presque tous les pays du monde. En janvier 2010, lors du terrible tremblement de terre survenu en Haïti, une équipe médicale israélienne est venue apporter son aide en y installant un grand hôpital de campagne. Cette équipe israélienne a soigné plus de 500 personnes par jour. Des médias arabes ont alors déclaré que cette équipe était en fait venue pour effectuer des prélèvements d'organes. Ce mensonge, présenté comme un fait avéré, n'a fait que relier cette rumeur moyenâgeuse. Profanation des hosties. Alors, la première accusation connue de profanation d'hosties par des juifs date de 1243 à Berlitz, près de Berlin. En 1370, en Belgique, les juifs furent accusés d'avoir volé des hosties et de les avoir poignardées. Des milliers de juifs furent tués à cause de cette accusation. L'antisémitisme fut alimenté par la légende des hosties miraculeuses du XIIIe au XVe siècle. Cette fausse accusation de profanation s'est répandue en Espagne, Tchécoslovaquie, Pologne et France. Ici, on peut voir un livre qui a été écrit sur cette histoire des hosties miraculeuses, qu'on peut retrouver encore dans les archives nationales à Bruxelles, et qui explique en fait que lorsqu'ils ont poignardé les hosties, voilà, ici on peut les voir poignarder les hosties sur la gauche. Elles sont en train de saigner comme le corps de Christ, parce que les hosties représentent en fait le corps de Christ pour les catholiques. Donc, je sais pas si on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, ici c'est un vitrail dans la cathédrale Saint-Michel et Gudule à Bruxelles, où on voit encore cette scène où les juifs poignardent les hosties et on les voit saigner. Là sur la table. Voilà. Expulsion des juifs de France et d'autres pays. Les juifs vivaient en France depuis plus de 1000 ans, lorsqu'en 1179, Philippe Auguste accède au trône de France. 4 mois après avoir pris les rênes du gouvernement, il fit emprisonner tous les juifs qui vivaient sur ses terres, et il ne les relâcha qu'après qu'ils eurent payé une lourde rançon. L'année suivante, en 1181, il fit annuler tous les prêts faits aux chrétiens par des juifs, tout en prélevant pour lui-même une généreuse commission de 20%. Une année plus tard, en 1182, il confisqua tous les terrains et bâtiments qui appartenaient aux juifs et les expulsa de ses terres. L'Inquisition. L'Inquisition fut établie en 1199, commençant à Toulouse, avec à sa tête Dominique, le fondateur des Dominicains. L'Inquisition atteint rapidement d'autres régions de la France et, de là, l'Espagne et au-delà. Elle avait pour but de lutter contre l'hérésie en utilisant des interrogatoires et des tortures. La lutte fut menée contre les Albigeois dans le midi de la France, contre les Vaudois et les Cathares, mais elle ne put pratiquement rien contre les protestants, sauf en Italie et en Espagne. En Espagne, en 1492, toujours pendant l'Inquisition, c'est par milliers que les maranes, juifs qui étaient encore convertis de force au christianisme, mais qui pratiquaient leur judaïsme en cachette, montèrent sur les échafauds. La Réforme, 1517. Au début de la Réforme, Martin Luther, qui avait étudié la Bible, pensait que les juifs, qui avaient aussi les textes bibliques en grande estime, se seraient ralliés à sa cause et qu'il se serait converti en masse au protestantisme. Quand cela n'arriva pas, Luther arriva à la conclusion que les juifs avaient en effet la nuque raide et un esprit de rébellion. Par conséquent, Luther écrit un pamphlet contre les juifs intitulé « Les juifs et leurs mensonges », Wittenberg, 1543. Dans celui-ci, il écrit notamment « Les juifs sont des brutes, leurs synagogues sont des porcheries ». On devrait les brûler, car c'est ce que Moïse ferait s'il revenait dans ce monde. Ce sont des animaux sauvages qui devraient être chassés comme des chiens fous. Dans un autre pamphlet, intitulé « Propos de table », un des élèves de Martin Luther écrit que celui-ci aurait dit « Si un juif ne se convertit pas, on doit lui attacher une meule autour du cou et le jeter dans le Rhin ». Il faut savoir que 4 siècles plus tard, Hitler a repris ses déclarations virulentes pour justifier l'extermination du peuple juif. Dans son livre « Mein Kampf » 1924, Adolf Hitler déclare « Donc, je crois que j'agis dans l'esprit du Dieu Tout-Puissant. En me défendant contre les Juifs, je combats pour l'œuvre du Seigneur. Depuis la mort de Martin Luther, aucun fils de notre peuple n'est réapparu comme tel. Il a été décidé que nous serons les premiers à être les témoins de sa réapparition. Je pense que le temps est passé, que nous devons dorénavant dire les noms de Hitler et de Luther d'un même souffle. Ils sont en fait tous les deux du même moule. Il est intéressant de savoir que le début des hostilités contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale eurent lieu durant la Kristallnacht, la nuit de cristal, à cause de toutes les vitrines des magasins juifs brisées. Ces actes de violence furent programmés pour avoir lieu la nuit de l'anniversaire de la naissance de Martin Luther. Il était né le 10 novembre 1483, et la nuit de cristal eut lieu la nuit du 9 au 10 novembre 1938, donc exactement 455 ans plus tard. Pendant cette nuit, la terreur s'était installée chez les Juifs, car près de 200 synagogues et lieux de culte furent détruits. 7500 commerces et entreprises exploitées par des Juifs saccagés. Une centaine de Juifs furent assassinés, des centaines d'autres se suicidèrent ou moururent des suites de leurs blessures, et près de 30 000 furent déportés en camps de concentration. Voilà, donc on va faire une petite pause de 15 minutes, je pense, où je vous laisse la parole au pasteur.
Merci en tout cas. C'est comment ton prénom ?
Nathanaël.
Voilà, hein ? Voilà, c'est dur et choquant, c'est très difficile, mais c'est l'histoire. On peut pas dire que c'est pas vrai, parce que l'histoire, elle est là. Maintenant, nous ne sommes pas obligés de continuer ce que certains chrétiens ont commencé à faire. Malheureusement, Martin Luther a dit des choses formidables. Il a remis l'Église sur les bonnes voies, mais par rapport à Israël, il était complètement à côté de la plaque. Hein, l'obéissance à l'autorité aussi que Hitler a repris, malheureusement, hein, une obéissance aveugle, elle peut conduire à des désastres. Que nous avons vu à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est des choses terribles, les croisades. Évidemment, les musulmans, encore aujourd'hui, se servent des massacres qui ont été commis pendant le Moyen-Âge, au temps des croisades, pour dire, voilà ce que l'Église est capable de faire. Ben oui, c'est ce qui nous précède, c'est l'histoire. Alors, la seule chose, et j'ai beaucoup aimé ce que Jeunesse en Mission a réalisé, c'était en 1998, c'est cela ? Entre 98 et 99, j'étais pas très au courant de ça. Mais, vraiment, je trouve ça formidable. Je trouve ça. Comment ? C'est vrai. Ce que j'ai vu à Brandon, qui était formidable aussi, c'est la jeunesse allemande, en 1960, qui a demandé pardon, qui est venue à Brandon, apporter des fleurs. Si vous allez à Brandon, vous pourrez voir ça, en 1960, ils ont demandé pardon. Donc il y a des demandes de pardon qui se font. Hein. Il y a un pape qui a aussi demandé pardon pour l'attitude de l'Église par rapport à Israël, c'était Jean-Paul II, hein, qui a demandé pardon. Donc il y a des demandes de pardon. Je pense qu'aussi, dans nos cœurs, il doit y avoir cette demande de pardon. Quand j'étais petit, qu'est-ce que j'ai entendu de mes parents, de la parenté, des gens dans l'école, des voisins, des gens qui parlaient sur Israël, contre Israël. Hein, nous avons peut-être eu des pensées contre Israël, contre les Juifs. On s'en est débarrassé, hein, mais pour la plupart, on s'en est débarrassé. Mais il y a ça derrière. Alors, je voudrais simplement, peut-être qu'on demande pardon, hein, sans plus attendre, on va demander pardon, et puis on louera le Seigneur, parce qu'il mérite d'être adoré, mais on demande d'abord pardon, hein, pour ce genre d'attitude qu'il y a eu, des méchancetés qui ont été dites par nos paroles,